Philippiens, chapitre 1, versets 27 à 30. Et nous donnons comme titre à ce message « Combattre pour la foi de l'Évangile ». Voyez, combattre pour la foi de l'Évangile ou encore combattre pour l'avancement de la gloire de Christ dans ce monde par le moyen de la prédication de l'Évangile, par le moyen de la proclamation de Christ et de Christ crucifié. C'est ce que nous voyons ici dans ces quatre versets où l'apôtre Paul exhorte les Philippiens à persévérer dans le combat pour la foi de l'Évangile, comme lui-même combattait dans sa prison à Rome. Vous voyez, il était dans les chaînes, mais l'Évangile n'était pas dans les chaînes. Et pour persévérer dans ce combat, et pour triompher dans ce combat, l'apôtre Paul donne certaines instructions ici aux frères de Philippe. Nous allons lire le texte. Il leur dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je sois, non, que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui pour eux est une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. » Voilà le texte. Et la première des instructions que l'apôtre Paul donne ici aux chrétiens de Philippe et aux chrétiens d'aujourd'hui, ici même dans notre ville de Bafoussam, il dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. » Ce qui veut dire quoi? Vivez conformément à l'Évangile de Christ. Vivez conformément à l'Évangile de Christ. Vivez de la manière approuvée par l'Évangile. Voilà ce que l'apôtre Paul nous recommande. Et tout d'abord, comment pouvons-nous vivre conformément à l'Évangile? Comment pouvons-nous, n'est-ce pas, vivre de manière approuvée par l'Évangile? Premièrement, c'est en étant véritablement attachés nous-mêmes à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cela veut dire en étant véritablement rachetés par le sang de Christ qui a payé la dette de notre péché sur la croix, qui a satisfait à la justice de Dieu et qui a rendu par son sang, qui a rendu Dieu propice par son sang pour nous sauver. Se reposer dans la personne de étant nous-mêmes, hein, que nous nous reposions dans la personne sainte et divine de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous nous reposions dans sa conduite sainte, son obéissance et sur son sacrifice qui seul satisfait à la justice de Dieu en faveur de ceux pour qui il est mort sur la croix. Voyez mes amis, c'est évident. Si vous n'avez pas quelque chose, vous ne pouvez pas la donner. Et nous ne pouvons pas combattre pour la foi de l'Évangile si nous-mêmes, nous ne sommes pas sauvés par cet Évangile. Si nous-mêmes, nous n'avons pas été touchés par la puissance de la croix. Si nous ne ressentons pas le Seigneur Jésus-Christ dans d'autres âmes, c'est ça la vérité. C'est d'abord être sauvé soi-même par le Seigneur Jésus-Christ et n'avoir pour tout espoir et toute espérance que notre Seigneur Jésus-Christ et sa justice. Voyez, c'est ça que l'apôtre Paul nous montre, nous enseigne ici dans Philippiens chapitre 3. L'apôtre Paul avait beaucoup de béquilles sur lesquelles il s'appuyait. Sa religion, sa nationalité, son zèle. Mais il dit à partir du verset 7, d'abord après avoir dit, revenons vraiment dans le texte, ça nous aidera, dans le contexte nous aidera. Verset 4, il dit, moi aussi cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Et si quelqu'un croit pouvoir se confier à ses œuvres, à son obéissance de la loi, à sa nationalité, à son zèle, l'apôtre Paul dit qu'il puisse, il peut se confier davantage sur la chair. Car il était circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi. Combien aujourd'hui il y a des hommes qui ressemblent à Paul. Vous voyez, il y a des gens qui pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils essayent d'obéir à la loi de Dieu, ce qu'ils ne pourront jamais obéir de manière satisfaisante. Et la Bible dit que pour celui qui veut être sauvé par l'obéissance de la loi, doit mettre toute la loi de Dieu en pratique sans en avoir transgressé une seule. Il y en a qui pensent, comme l'apôtre Paul ici, j'ai entendu des hommes dire que c'est leur père, c'est leurs parents qui ont construit l'église, c'est leurs parents qui ont fondé l'église là où ils sont, donc ils sont nés, ils sont nés dans cette famille des fondateurs de l'église. Et à partir de là, il se fonde un certain espoir, un faux espoir, croyant qu'ils sont sauvés, croyant qu'ils peuvent être sauvés. Mais l'apôtre Paul dit que toutes ces choses sur lesquelles il fondait son espoir, son zèle, sa religion, sa nationalité, comme beaucoup le font aujourd'hui, ne pouvait le sauver. Ce n'était que de la boue, ce n'était qu'une perte. Et toutes ces choses ne pouvaient le conduire qu'à la perdition éternelle. Mais lorsqu'il a plu à Dieu de lui révéler l'excellence de Christ, l'excellence de la personne de Christ, la personne divine, l'excellence de sa personne, de son humanité, l'excellence de son sacrifice efficace et parfait qui a satisfait à la justice de Dieu, l'apôtre Paul dit, tout ce sur quoi il se fondait, il s'appuyait, Il a mis toutes ces choses de côté. Il a renoncé à toutes ces choses pour s'attacher à Christ et pour se reposer dans la justice de Christ. Et non dans la justice qui vient de ses œuvres, de ses efforts, et qui ne peut le sauver, qui ne peut sauver personne. Chers amis, vous qui m'écoutez ce soir, il y a beaucoup d'entre vous qui pensent en réalité qu'ils sont sauvés parce qu'ils font ceci, parce qu'ils font cela, parce qu'ils sont ceci. Mais détrompez-vous. Détrompez-vous. Et je prie que comme Paul, que Dieu vous fasse grâce et vous révèle l'excellence de la personne de Christ et de son œuvre qui seule sauve le pécheur. Afin que vous détourniez de toutes les béquilles sur lesquelles vous vous appuyez pour vous attacher à Christ. Une deuxième chose, voyez, vivre conformément. Une deuxième chose, parlant de vivre conformément à l'évangile de Christ, c'est de marcher en imitateur de Dieu en Jésus-Christ. Marcher en imitateur de Dieu en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Une marche dans la sainteté, dans la sainteté. Vous savez, mes amis, l'esprit que Dieu a mis en nous ne peut nous conduire à vivre contrairement ou bien à mener une conduite contraire à celle de Christ. L'Esprit nous révèle Christ et l'Esprit fait de Christ notre modèle. L'Esprit nous amène à marcher à l'image et à la ressemblance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est cela, la vie de tous ceux que le Seigneur Jésus-Christ a rachetés. Il ne change pas de mode de vie. Avec les saisons, avec les temps, avec les changements, ils sont l'ouvrage de Dieu ayant été créés par Dieu en Jésus-Christ pour une vie nouvelle pour Dieu, pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'il les pratique. Ils ne peuvent changer, que Christ soit là, que Christ ne soit pas là. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul leur dit, que je sois là, que je ne sois pas là, que j'entende dire que vous vous conformez à l'évangile que vous prêchez, à l'évangile que vous avez reçu. Lisons ça dans Éphésiens, lisons un peu dans Éphésiens chapitre 5. Ici, dans le chapitre, on pouvait même commencer à partir du chapitre 4, verset 17, mais ça va prendre toute notre heure de prédication. Dans le chapitre 5, il dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Devenez des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, les enfants bien-aimés de Dieu. Et nous savons même dans notre famille que lorsque nos enfants, nous voyons comment nos petits-enfants veulent nous imiter en toutes choses. Et c'est ainsi que le croyant est devant Dieu son Père. C'est ainsi que le croyant est devant Christ. Christ est son modèle et il veut imiter Christ en toutes choses. Oui. Marcher dans l'amour, l'amour pour Christ, l'amour pour Dieu d'abord, et l'amour pour notre prochain, l'amour pour les frères, l'amour pour l'Église de Christ, à l'exemple de l'amour dont le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés en se livrant lui-même pour nos péchés à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ça veut dire que c'est cette offrande que Christ a offert à Dieu, ce sacrifice que Christ a offert à Dieu pour nous, à notre place, comme notre substitut, comme notre représentant, qui a satisfait pleinement le cœur de Dieu, afin que Dieu nous soit propice pour nous sauver. Et il dit que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Que la débauche, l'impureté, la souillure, et la marche dans le péché, dans la souillure, la cupidité, l'amour des richesses, ne soit même pas nommé parmi vous. Voyez, les enfants de Dieu, ils marchent dans la sainteté et ils marchent dans le contentement. Ils se contentent de ce que Christ leur donne. Ils se suffisent avec ce que Christ leur donne. C'est ça, la vie des saints, ceux que Christ a sauvés. Verset 4, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt les actions de grâce, car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Que personne ne vous séduise. Vous voyez, il y a des prédicateurs comme moi qui prêchent que la grâce de Dieu est irrévocable. Ça veut dire que si Dieu vous a fait grâce, il vous a fait grâce une fois pour toutes, quelle que soit la manière dont vous vous conduisez. Et c'est même pour cela que dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on ne veut même pas faire mention de la grâce de Dieu. On vous dit la grâce de Dieu conduit au péché. Malheureusement, c'est un message diabolique. Et dans sa ruse, n'est-ce pas, le diable prend le fondement du salut qui est la grâce de Dieu. La source du salut qui est la grâce de Dieu. Pour en faire un objet de condamnation dans la bouche de certains que Dieu a laissé à eux-mêmes, que Dieu a aveuglé pour ne pas voir briller la gloire de sa grâce sur la face de Christ, de son Fils Jésus-Christ. Voyez, mes amis, que personne ne vous séduise qu'un chrétien peut marcher dans le péché. L'apôtre Paul, dans Romains 6, dit, « Pécherions-nous pour que la grâce de Dieu abonde ? Dirons-nous devant les hommes que nous sommes objets de la grâce de Dieu en vivant dans le péché ? Absolument pas. » Et c'est pourquoi au verset 8 ici, il dit, « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. » Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Voilà, mes amis, ce que c'est de vivre conformément à l'Évangile. Premièrement, être assuré qu'on est sauvé soi-même. Et deuxièmement, vivre ce salut que nous avons reçu en Jésus-Christ. Voyez, nous pouvons dire aux hommes, nous sommes sauvés, mais les hommes verront le contraire par notre vie. Ou bien ils confirmeront à travers notre vie que nous sommes sauvés. Voilà. Une deuxième chose que nous voyons donc ici, une deuxième instruction. L'apôtre Paul dit « Demeurez unis dans un même esprit et dans une même âme et combattez pour la foi de l'Évangile. » Toujours dans le verset 1, n'est-ce pas? Où est-ce que je suis là? Revenons dans Philippiens. Toujours dans le verset 27. Il dit que je sois absent, que je sois présent, que je vienne ou que je sois absent, que j'entende que vous vous conduisez, que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Et dans Amos chapitre 3 et le verset 3, il est écrit: deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Vous voyez, mes amis, nous ne pouvons pas, aucune église locale ne peut combattre efficacement pour la foi de l'Évangile s'ils ne sont pas unis dans un même esprit. S'ils ne sont pas unis comme une même âme, dans une même âme. Oui. Et dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6, il est écrit: voici le fondement de l'unité des enfants de Dieu. Verset 1, il dit: je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous avez, qui vous a été adressée, à marcher d'une manière digne de l'appel que le Seigneur vous a adressé. Marchez en toute humilité et en toute douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et en quoi et comment sommes-nous unis? Verset 4, il y a un seul corps, nous sommes unis tous dans un seul corps, l'Église de Christ. Et le Seigneur nous a sauvés et il nous a unis dans son corps. Nous sommes tous unis dans le corps de Christ par les liens du Saint-Esprit, par le lien du Saint-Esprit. Non seulement il y a un seul corps, mais un seul esprit. Vous voyez, c'est l'esprit qui nous révèle Christ. C'est l'esprit qui nous révèle les choses de Dieu. Et si nous avons le même esprit, comme il dit ici, il y a un seul esprit. Si nous avons le même esprit, nous allons voir et nous allons comprendre Christ de la même manière. Nous allons comprendre les choses de Dieu de la même manière, nous allons les voir de la même manière, nous aurons les mêmes visions, nous aurons les mêmes objectifs concernant la gloire de Christ, l'avancement de la gloire de Christ et le salut de son peuple. Parce qu'il y a un seul esprit qui nous révèle ces choses. Mais si nous avons une compréhension contradictoire, des visions contradictoires, ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Certainement, les uns sont animés par l'Esprit de Dieu et les autres par un autre esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance. Voyez, l'espérance, c'est cette certitude, cette conviction, cette assurance que les promesses de Dieu en Jésus-Christ se sont accomplies pour notre salut et pour notre héritage éternel, dans la gloire. Mais cette espérance, c'est qui? En qui ces promesses se sont-ils accomplies? Christ, c'est lui qui est notre espérance. Voyez, tous les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, ils sont unis dans un seul et dans une seule espérance. Ça veut dire que ils n'ont pas confiance. Leur confiance de salut et leur confiance pour entrer dans l'héritage éternel ne se repose pas sur ce qu'ils sont capables de faire, sur leurs œuvres, sur leur obéissance à la loi, sur leur zèle, leur prière, leur jeûne, mais sur Christ et Christ seul. C'est lui notre espérance. Il dit par votre vocation, il y a un seul Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur des cieux et de la terre. Et c'est lui que nous confessons par le même esprit. Vous voyez, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, il dit, Là où il y a l'esprit,
disons-le, je n'ai pas. J'espère que je vais le voir pour ne pas écorcher ce message.
Voilà. Verset 3, 1 Corinthiens chapitre 12. Il dit, c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus-Christ est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Voyez, nous ne pouvons pas blasphémer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ si c'est par son Esprit. Si c'est son Esprit qui nous possède, si c'est son Esprit qui nous anime. Et nous ne pouvons pas dire le Seigneur que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas son Esprit qui nous le révèle. Et tous ceux qui sont sauvés par son sang, voyez, ils confessent le même Christ, le même Seigneur, le même Seigneur. Revenons dans Philippiens, moi dans Éphésiens chapitre 4, pour terminer dans cette unité de la foi. Il y a une seule foi. Et la foi, c'est quoi? C'est la révélation de Christ dans le cœur. Et là, nous revenons encore à Christ. C'est le même Christ qui est révélé au cœur de tous les enfants de Dieu. C'est lui seul. L'apôtre Paul dit, il s'appuyait sur beaucoup de béquilles qu'il a considérées comme une perte, comme de la boue, mais à cause de la connaissance de l'excellence de Christ. Voyez, l'Esprit révèle à tous ceux que Christ a sauvés l'excellence de Christ. Il les révèle Christ dans leur cœur, afin de leur donner de faire confiance, de se reposer en toute confiance et en toute espérance, à fonder tout leur espoir et toute leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et il continue encore à dire. Un seul baptême. Il y a un seul baptême dans lequel nous sommes unis. Il ne parle pas ici du baptême d'eau, mais il parle de la mort de Christ. Oui, nous sommes morts avec Christ, nous avons été ensevelis avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ. Nous tous que Christ a rachetés. Et c'est en cela que nous sommes unis et que nous pouvons voir. Nous pouvons avoir la même vision, les mêmes objectifs et mener le même combat pour la gloire de Christ. Et il y a enfin un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui s'est révélé à nous dans son Fils Jésus-Christ. Et il est au-dessus de tous. Il est élevé en gloire, il est élevé en magnificence, il est élevé en puissance, il est élevé en splendeur, en honneur. Élevé au-dessus des cieux. Et il est parmi tous. Il est parmi tous ses enfants. Et il vit dans chacun de ses enfants. C'est pourquoi l'Église est le temple du Dieu vivant. En esprit. Voyez, mes amis, c'est en cela que nous sommes unis. Et si nous ne sommes pas unis dans ces choses qui sont dans tout ce que nous venons de parler ici dans Éphésiens chapitre 4, et nous ne pouvons pas combattre efficacement pour la foi de l'Évangile. Parce que nous aurons une compréhension divergente, une vision divergente, une connaissance divergente de Christ, et nous ne pouvons pas combattre pour la foi de l'Évangile. Vous voyez, c'est ça, les amis. Et l'Église de Christ était, l'Église de Philippe était environnée de beaucoup de faux, de faux docteurs qui prêchaient des fausses doctrines. D'où la nécessité pour Paul de leur dire « Soyez unis dans un même esprit et dans une même âme. » Ressentez l'Esprit de Christ dans votre esprit, ressentez l'âme de Christ dans votre âme, afin de pouvoir véritablement combattre pour la foi de l'Évangile. Voyez. Par la proclamation de l'Évangile, par
la prédication de Christ et de Christ crucifié, avec amour, avec fierté, avec zèle, dans la puissance du Saint-Esprit. Voyez, mes amis, l'unité de la foi est indispensable pour combattre pour Christ, pour la gloire de Christ. Nous ne pouvons pas, si nous avons une compréhension, une connaissance divergente de Christ, une compréhension divergente de son Église, de son Évangile. Et malheureusement, nous voyons aujourd'hui beaucoup, nous disons que nous sommes à Christ, nous disons que nous parlons de Christ, nous disons que nous avons un seul Christ, un seul Seigneur, un seul Dieu. Mais combien de contradictions en ce seul Dieu? Combien de contradictions en ce seul Évangile? Combien de contradictions en ce seul Seigneur? La nécessité s'impose d'être unis dans la foi de l'Évangile, d'être unis en esprit, dans un seul esprit, dans une seule âme, pour pouvoir combattre véritablement et efficacement pour la foi de l'Évangile. Une troisième instruction que l'apôtre Paul leur donne ici, c'est dans le verset 28, il est écrit « Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. » Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous montre là? Il dit « Résistez à l'adversaire sans craindre de souffrir pour Christ. » Résister à l'adversaire sans craindre de souffrir pour Christ. Voyez dans 2 Timothée chapitre 1, verset 8 à 12. Voici ce que l'apôtre Paul, pour exhorter et encourager et soutenir Timothée dans le combat pour l'Évangile, lui dit ceci. Verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a rendu la mort à l'impuissance et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Voyez, mes amis, oui, nous devons résister à l'adversaire sans crainte de souffrir pour Christ. Et comment devons-nous donc résister à l'adversaire? L'apôtre Paul nous montre quelque chose ici. Après avoir dit à Timothée, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Il dit, souffre pour la foi, souffre pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Et à partir du verset 9, il lui montre, disons, l'élément fondamental, le premier élément fondamental pour résister à l'adversaire sans crainte de souffrir pour Christ. Et comment donc résister à l'adversaire? C'est en établissant la saine doctrine par la prédication de l'Évangile. Timothée devait rétablir la saine doctrine par la prédication de l'Évangile en réfutant, n'est-ce pas, les fausses doctrines et en
proclamant clairement le dessein éternel de Dieu pour le salut de son peuple. C'est ce qu'il dit ici. Il nous a sauvés, c'est Dieu qui nous a sauvés. Et il nous a adressé, le salut vient de Dieu, voilà ce que ça veut dire. Et il nous a adressé une sainte vocation, selon son appel de la grâce, à travers la prédication de l'Évangile. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui attire. Non à cause de nos œuvres, personne ne sera sauvé par ses œuvres, mais selon son propre dessein, et selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Il nous a sauvés selon le bon plaisir de sa volonté et selon sa grâce. Cette grâce qu'il a donnée depuis avant la fondation du monde en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Vous voyez, mes amis, c'est ça l'évangile de Christ. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui appelle, non à cause de ce que nous pouvons faire, mais selon le bon plaisir de sa volonté de sauver qui il veut, sur la base de sa grâce, sur la base de sa faveur imméritée, qui nous a été donnée depuis avant la fondation du monde en Jésus-Christ et qui a été manifestée par la venue de Christ. Oui, la grâce nous a été donnée depuis avant la fondation du monde, mais elle a été manifestée par la venue de Christ et sa mort sur la croix. Cette mort efficace qui a réduit, qui a tué notre mort. Nous pouvons le dire comme ça. Vous voyez, la mort de Christ a tué la mort de ceux pour qui il est mort, de ceux dont il est venu sauver. Et a donné la vie à ceux-là dont il est venu sauver par la prédication de l'Évangile. Et l'apôtre Paul dit, c'est pour cet Évangile qu'il a été établi prédicateur de l'Évangile. Sommes-nous prédicateurs de l'Évangile? Voici le seul et unique message que nous devons prêcher. Et nous ne devons pas avoir honte de cela. Parce que il s'agit de la gloire de Christ. Et c'est pourquoi il dit, je sais en qui j'ai cru. Il était dans sa prison, mais il n'avait pas honte, parce qu'il savait en qui il a cru. Il s'agissait de la gloire de Christ. Il s'agissait de la gloire de Christ. Christ, il le gardait dans ses mains. Et c'est pourquoi il dit, hein, il est persuadé que Christ gardera son dépôt jusqu'à ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il était gardé dans la main de Christ. Il dit, je connais mes brebis entendent ma voix, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, nul ne peut les ravir de ma main. Pourquoi? Parce que lui-même, il les tient dans sa main. Oui, les souffrances, la prison pourrait ravir, c'est-à-dire amener ceux qui ont été sauvés à renoncer à la foi. Mais ils ne peuvent pas renoncer parce que Christ les garde dans sa main. Oui. Et voilà donc, mes amis, cela. Et l'apôtre Paul nous montre ici deux grandes choses. Une autre chose. Une grande vérité. Il dit de ne pas nous effrayer devant les adversaires, parce que pour eux, c'est une preuve de perdition. Donc la première des choses, sinon la deuxième des choses que l'apôtre Paul nous montre ici, c'est que l'opposition à Christ, l'opposition à l'Évangile, révèle que ceux qui s'opposent à Christ, ceux qui s'opposent à l'Évangile, ne connaissent pas Christ, malgré leur religion. Il révèle que Christ les a laissés à eux-mêmes et qu'ils sont perdus. Voilà ce que l'opposition à l'Évangile, l'opposition à Christ nous révèle. Que ceux-là qui s'opposent sont véritablement laissés à eux-mêmes.
Ils ne connaissent pas Christ malgré leur religion. Vous voyez, c'est ça. C'est les Juifs qui ont dit, qui ont amené Paul en prison. En fait, à cause des Juifs, l'apôtre Paul a demandé qu'il soit jugé à Rome. Vous voyez, les Juifs qui voulaient le tuer, qui voulaient le juger, le tuer, comme un imposteur. Et une deuxième chose, l'opposition de des adversaires à l'Évangile, l'opposition des adversaires à Christ, révèle aussi que les élus de Christ, ceux qui sont attachés à Christ, à l'Évangile de Christ, sont véritablement sauvés. Il dit pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour nous, c'est une preuve de salut. De salut. Oui, mes amis, c'est ça. Si les hommes s'opposent véritablement à vous, lorsque vous êtes véritablement attaché à l'Évangile de Christ, c'est la preuve que vous êtes véritablement sauvé. Vous souffrez pour cet Évangile, vous souffrez pour Christ, c'est la preuve que vous êtes véritablement sauvé. Et la preuve aussi que ceux qui s'opposent et qui vous poursuivent, qui vous persécutent, sont perdus. Sont perdus. Et en fait, l'ennemi, n'est-ce pas, ne persécute pas ceux qui le servent, parce que ce sont ses serviteurs. Mais il ne peut persécuter que ceux qui sont à Christ. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit dans Jean 15, versets 18 à 19. Il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Et la Bible est claire. Si nous voulons vivre pieusement, nous devons nous attendre à la persécution. Si nous sommes à Christ, nous devons attendre à être persécutés. Et c'est ce qu'il dit même dans Matthieu 10. Dans Matthieu 10, versets 24 et 25. Il dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébuth, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Les gens de sa maison. Et voilà donc ce que nous voyons dans notre texte. Et une dernière chose, c'est que l'apôtre Paul dit, verset 29, « Et cela vient de Dieu ». Philippiens chapitre 1, verset 29. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu souffrir, soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Voyez, mes amis, nos souffrances pour Christ ne sont pas seulement le fait de l'ennemi, mais c'est la volonté de Dieu lui-même. En réalité, combien cela devrait nous fortifier, nous encourager dans les souffrances, sachant que cela vient de Dieu qui tient toutes choses entre ses mains, qui dirige toutes choses entre ses mains et qui fait concourir toutes choses au bien de son peuple. Combien nous devrions être encouragés. Et c'est cette vérité qui encourageait Paul, qui soutenait Paul. Il se reposait dans cette vérité et c'est pourquoi il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il trouvait sa force en ce Dieu qui l'a mis dans cette épreuve, qui l'a mis dans cette prison, afin que par sa prison il puisse participer à la propagation de l'Évangile. que l'évangile atteigne toute la ville de Rome. Allez, mes amis, nous voyons donc quelque chose ici. Premièrement, Dieu notre Père nous a bénis non seulement en nous sauvant par sa grâce en son Fils Jésus-Christ, par son sang qui a payé la dette de nos péchés, par ses souffrances, mais Dieu nous a encore bénis en nous donnant la grâce de participer aux souffrances de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est une très grande bénédiction. C'est une très grande bénédiction. Voyez, et c'est pourquoi la Bible déclare dans Romains, chapitre 8, et le verset 29, nous allons le lire. Il est écrit, car ceux qu'il a connus d'avance, ça veut dire que ceux qu'il a aimés d'avance dans sa grâce en Jésus-Christ, depuis avant la fondation du monde dans sa grâce en Jésus-Christ, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Voyez, le Seigneur nous a bénis non seulement en nous sauvant et en nous donnant l'héritage, la gloire éternelle, mais aussi il nous a bénis en nous donnant de participer par sa grâce aux souffrances de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de notre Seigneur. Quelle grande bénédiction! Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est pour cela, c'est ce combat qu'il soutenait encore dans sa prison, parce que ses souffrances étaient une bénédiction et non une malédiction. Ses souffrances le rendaient jour après jour à l'image et à la ressemblance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Oh, puisse le Seigneur nous donner vraiment de comprendre cela. Et combien cette vérité, n'est-ce pas, nous encouragera dans le combat pour l'Évangile, sachant que c'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre et que ses souffrances sont plutôt une bénédiction, un privilège pour nous rendre semblables à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et quelle que soit la teneur de nos souffrances, tout comme l'apôtre Paul en prison, nous soutiendrons, nous combattrons pour la foi de l'Évangile. Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.